dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
On est de retour, 10h57, Marinaro, notre segment Habs Radio. Pour la première fois dans le forum, puis j'espère pas la dernière, Simon-Olivier Larange du journal La Presse. Comment vas-tu?
Ah, bien toi-même.
Ça va très, très bien. Merci beaucoup, mon chum. Écoute, on a fait jouer l'extrait, toi, puis Kent Hughes, il y a un couple de jours de ça. Puis, tu sais, moi, je t'apprécie parce que, tu sais, tu brasses un peu. Puis moi, j'apprécie ça.
OK, merci, c'est gentil.
Mais est-ce que tu es d'accord que tu brasses un peu ou non?
Ben, si je brasse un peu, c'est des fois, avec le feedback que je reçois, je comprends que l'effet, c'est que ça brasse un peu, effectivement, de temps en temps, mais c'est pas mon intention de brasser pour brasser. Puis, tu sais, je veux pas me poser non plus en héros de ça. C'est-à-dire, si j'ai des questions, je les pose et c'est tout. C'est pas, j'ai pas d'agenda à brasser l'équipe ou à brasser la cage. Je sais pas de me donner du capital avec ça, là. Je pense que je fais mon travail comme mes collègues font leur.
Ouais, ouais. Mais tu poses certaines questions que d'autres pose pas parce que, tu sais, c'est... Mais en tout cas, moi, j'apprécie, juste pour te dire ça. D'accord. Maintenant,
t'as posé
les questions concernant Caden Primo puis Justin Barron l'autre jour à Kent Hughes. Puis j'imagine que t'as posé parce que tu voulais avoir soit Kent Hughes te dire que lui, il a mal évalué peut-être Primo et ou Barron, ou tu voulais que Kent Hughes te réponde que Primo et ou Barron ont pas saisi l'opportunité, puis c'est eux autres qui ont échoué. Mais la raison pour laquelle je suis content de parler aussi avec toi aujourd'hui, c'est parce que tu as posé une question, c'est certainement toi, tu as tes réponses en tête à ces questions-là, donc moi, je veux savoir, toi, tu en penses quoi?
Ben, juste qu'on se comprenne quand on dit que j'ai les réponses en tête, je voulais pas faire dire quoi que ce soit à Kent Hughes, c'est-à-dire que pour que les gens comprennent, le DG, on le croise pas souvent. Moi, personnellement, la dernière fois que je l'ai croisé, c'était au tournoi de golf, donc il y a 40 matchs, fait que des fois, il y a des questions qui sont moins dans l'actualité du jour, que quand on finit par avoir accès au DG, on lui pose des fois un peu en retard, parce que l'échange de Barron date quand même de quelques semaines. Donc, mais c'est ça, mais moi, le constat que moi, je dressais, ou l'impression que j'avais, c'est que c'est quand même deux jeunes joueurs d'organisation, même si Rumo rendait 25 ans, sur lesquels le Canadien a peut-être pas abandonné, parce qu'on sait pas ce qu'il va avec Primo, mais a carrément changé de cap. Et là, c'est pour ça que j'ai demandé un peu si le Canadien estimait avoir un peu manqué de son coup, peut-être avoir mal évalué. Après ça, il revenait à Hughes de se défendre de ça. Puis j'ai moi aussi, je l'ai réécouté l'extrait ce matin, puis je trouvais ça moins tendu que ce que les gens voulaient bien laisser croire.
Oui.
Sur Primo, faut comprendre aussi que Primo fait encore partie de l'organisation, fait que il va pas non plus le jeter en dessous de l'autobus, puis il va pas dire ben c'est fini, on verra jamais ce gars-là, mais disons en tout cas j'achète pas beaucoup la réponse que de toute façon Saint-Louis avait déjà donné et que Hughes aura donné sur le fait que Montembeau allait bien à ce moment-là, c'est-à-dire que oui, Montembeau allait bien, mais tu sais, des gardiens qui ont des back-to-back présentement dans la Ligue nationale, il y en a à peu près plus, et chez le Canadien, c'était pas arrivé depuis Carey Price, si j'enlève les cas de blessure, là, c'était pas arrivé depuis Carey Price, un gardien de but qui avance deux matchs en santé. Donc, il y avait Anguille Souroche. Je pense que le Canadien veut être bon joueur, veut être élégant avec Caden Primo, puis veut pas, comme je disais, le jeter en dessous de l'autobus. Mais tu sais, c'est évident qu'à ce moment-là, on n'était pas satisfait de son travail. Sur Barron, mais je pense effectivement que le Canadien soit l'a mal évalué, soit le voyait en quelque part où il s'est pas rendu, ou que c'est Barron qui a pas livré, qui a pas répondu aux attentes, ceci étant lié à cela, là, on s'entend. Mais je veux dire, on a fait de la place à ce gars-là en échangeant Jonathan Kovacevic. On l'a choisi, on estimait qu'il peut faire du travail en désavantage numérique, puis peut-être sur un deuxième duo dans la Ligue nationale. C'est pas arrivé, puis on l'a échangé au Prédateur de Nashville, et le Canadien a fait un bon deal, je pense, en acquérant Carrier. Puis ma compréhension, c'est que les Prédateurs s'intéressaient à Barron depuis un bon bout de temps. Donc, je veux dire, si eux trouvent leur compte là-dedans aussi, c'est bien, mais c'est une évidence, le Canadien n'a pas échangé Barron de gaieté de cœur. C'est arrivé parce qu'on estimait que ça n'a pas fonctionné avec lui.
Donc, les Canadiens ont joué 40 matchs. Ce soir, ça va être match 41 contre les Capitals de Washington, dont on est rendu là, à la mi-saison. Si tu devrais donner des notes, du travail effectué à date pour Kent Hughes, c'est quoi la note que tu donnerais?
Par rapport à cette saison? Par rapport à la
on peut,
période
on peut,
de cette
on peut
saison?
Dire par rapport à cette saison à date, mais on peut dire aussi global. Le 18 janvier, ça va être l'anniversaire de 3 ans, comme Kent Hughes qui a été nommé comme directeur général, le 18e directeur général dans l'histoire des Canadiens. Donc, c'est le 18. Ça approche, c'est la semaine prochaine. C'est quoi la note que tu lui donnes? Est-ce que tu penses qu'il a bien fait son travail à date?
Ben, je vais dire oui, mais en même temps, c'est difficile de donner une note présentement parce que le Canadien est dans un processus à long terme. Puis je veux dire, Kent Hughes et Jeff Gorton ont été très clairs à leur nomination pendant l'hiver 2022 que ils visaient pas du succès en 1 an ou 2, puis qu'ils visaient même pas faire des séries. Ils visaient de bâtir une équipe pour la Coupe Stanley et non seulement pour la Coupe Stanley, puis pas juste une fois, mais pour avoir une équipe qui aspire à un championnat de manière pérenne. Je pense que c'est clair pour toi, pour moi, puis pour tous les auditeurs qui sont pas rendus là. Donc, je trouve que c'est difficile de donner une note sur le portrait global de cette démarche-là. Maintenant, jusqu'ici, ben, je pense qu'il a fait du bon travail. C'est-à-dire qu'il a, tu sais, il a liquidé des gros salaires dans ses premières années. Il a acquis des choix de repêchage. Il a acquis des jeunes joueurs. Des fois que ça a fonctionné, des fois moins. Tu sais, regardez le cas de Barron, c'est un cas que ça n'a pas marché. Mais regardez un gars comme Emil Heinemann qui est arrivé dans l'anonymat complet puis qui accomplit du super boulot présentement. Pour cette saison, je dirais je suis plus mitigé. Au quart de la saison, à peu près à 20 matchs, je me demandais justement où était Kent Hughes, où était la direction pour aider cette équipe-là qui était en complète déroute. Puis je pense que l'échange d'Alexandre Carrier a justement complètement changé la donne. C'est-à-dire que le Canadien avait déjà recommencé à gagner des matchs avant ça, mais depuis qu'il est arrivé, il y a un équilibre qui s'est installé. Puis je pense que justement, le DG a donné un bon coup de main à son entraîneur, à ses joueurs, pour dire, bon, ben, je constate quelque chose qui fonctionnait pas. On va essayer de l'ajuster. Puis c'est ce qu'il a fait. Puis le Canadien connaît du succès. Je sais pas jusqu'où ça va les mener, mais c'est sûr qu'il a réparé ce qui était brisé, mais les chantiers sont pas finis pour autant. Fait que je dirais, je sais pas, c'est une note, un genre de B-, quelque chose comme ça, pour justement parce que le Canadien, ça reste précaire, sa situation, mais c'est mieux que c'était. Fait que je m'en tiendrai à ça.
OK. Le Canadien aujourd'hui est dans le mix.
Oui.
Ils voulaient être dans le mix, ils sont dans le mix. Selon toi, est-ce qu'ils vont être en mesure de maintenir la cadence, oui ou non, et pourquoi?
Je la trouve dure, celle-là. Je vais dire.
Mais je suis
non,
pas juste la belle face, moi. Je pose des bonnes questions aussi, là.
Mais ça, t'en prends un pour reconnaître un autre.
Ouais, mais c'est ça.
Ben, écoute, je pense pas que c'est impossible, mais moi, je pense que c'est vraiment une très longue shot. Quand on parle du mix, tu sais, le mix, sa définition est tellement large. Moi, personnellement, je me donne comme définition le mix peut-être à passer à 5-6 points des séries, ça voudrait dire une saison
ouais.
de 85-86 points, mettons quelque chose dans ces eaux-là. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il joue pour un peu plus que 500 jusqu'à la fin de la saison, y compris jusqu'à la date limite des transactions, parce que le mix, j'avais publié un article là-dessus quand le Canadien arrivait au cœur de la saison, ben, on pense à la fin de la saison. Mais la date limite des transactions, après 62 matchs, donc dans 22 matchs, comme le répétait longtemps, souvent Kent Hughes, ben, c'est ça, l'espèce de date butoir. C'est littéralement, vous allez me dire, mais dans le sens où, si le Canadien est pas dans le mix à la date limite des transactions, ben, c'est là que Kent Hughes va peut-être vouloir profiter de ses atouts en échangeant Jake Evans, Joel Armia, David Savard. On connaît les noms. Mais si le Canadien est pas dans le mix dans 22 matchs, c'est ça ce qui pourrait arriver, mais s'il l'est dans 22 matchs, ben là, il y aurait une chance de se rendre jusqu'au bout. Fait que je trouve qu'il y a encore beaucoup d'hypothèses qui sont reliées. Est-ce que Patrick Laine va revenir bientôt? Est-ce que le Canadien va rester aussi en santé que maintenant? Dès le début de la saison, je trouvais que la présence du Canadien dans justement le mix ou même jusqu'en série,
ouais.
C'était lié à trop d'hypothèses liées les unes aux autres. À ce moment-là, on se demandait, est-ce que Kirby Dach va être bon? Est-ce que Slafkovski va régresser? Est-ce que les gardiens vont être efficaces? Est-ce qu'en défense, ça va marcher? Est-ce que Lennartsen peut jouer dans la Ligue nationale? On a des réponses, mais on les a pas toutes.
Ouais.
On sait que déjà, certaines de ces hypothèses-là se sont pas confirmées. Fait que moi, j'ai envie de dire, je pense que c'est encore très ambitieux d'être dans le mix. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il soit à ce point-ci de la saison. Est-ce qu'ils vont l'être au 82e? Je ne penserais pas, non.
OK, tu t'es mouillé, puis moi, je vais me mouiller aussi. Moi, je pense qu'ils vont être dans le mix. Puis je pense qu'ils vont être dans le mix pour, je vais te dire des raisons. OK, premièrement, c'était le retour au jeu de Patrick Laine. Deuxièmement, c'est évidemment l'acquisition d'Alexandre Carrier. Troisièmement, c'est le fait que le troisième et le quatrième trio ils ont vraiment trouvé une identité puis ils jouent de façon très, très constante. Une autre chose que je veux dire, c'est que Martin Saint-Louis, pour moi, est en train de grandir comme entraîneur à tous les jours, puis je pense que Martin, aujourd'hui, peut tenir tête aux meilleurs entraîneurs de la Ligue, puis c'était pas le cas il y a un mois. Donc, à chaque jour, tu acquiers plus d'expérience, puis je pense que le jeu de Nick Suzuki, je parlais avec Brian Wilde puis Snake Boisvert hier soir lors de mon podcast, de Sick Podcast, de lundi au vendredi à 22h le soir en direct. Puis Brian Wilde dit, puis pensez-y bien, il dit, les matchs qu'ils ont joués en Floride, à Tampa, à Vegas et au Colorado, Nick Suzuki a affronté Barkov, Point, Eichel et McKinnon. Il était meilleur que les quatre, là. C'est pas par chance, là, qu'il était meilleur que les quatre. Puis, il n'est pas un meilleur joueur que les quatre, là. T'sais, on le sait. Mais il a prouvé à tout le monde, là, puis à ceux qui doutaient que sa capacité d'être un centre numéro un, je peux tenir tête. Puis aujourd'hui, puis on l'a dit dans les derniers jours aussi, là, il est dans les top 13, top 14 attaquants de la Ligue au niveau des points. Il a été là aussi l'année passée. Donc, Suzuki, qui cette année produit un rythme de 1.02 points par match, ça veut dire qu'il devrait franchir le 1 point par match pour la première fois qu'un joueur des Canadiens fait ça depuis Alex Kovalev. Donc, j'ajoute tout ça, puis j'ajoute à ça, Simon-Olivier, la dégringolade. C'est-tu comme ça qu'on dit dégringolade? Dégringolade. Oui. Pourquoi j'utilise des mots difficiles, moi? Je suis tellement cave des fois. En tout cas, la dégringolade.
Tu l'as bien eu, en tout cas.
Merci. La dégringolade des Bruins et des Rangers, ça ouvre la porte, mon chum.
Ben, en fait, je te rejoins sur à peu près tout ce que tu dis, mais encore là, il y a beaucoup d'hypothèses dans la dernière partie de ta réponse. La dégringolade des Bruins et des Rangers, ben, je suis d'accord, mais c'est deux clubs qui sont en meilleure position que le Canadien pour remonter. D'ailleurs, les Bruins, c'est pas juste qu'ils réussissent à se maintenir, là. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont encore dans le portrait des séries. Les Rangers, s'ils se réveillent, ben, ils vont être dangereux. Le Canadien.
Les Canadiens ont quatre matchs en main sur les Bruins, là. Quatre!
T'as raison, en fait, ça sent. Je pense que c'est plus éloquent sur les problèmes des Bruins que sur les succès du Canadien en ce qui me concerne.
Ouais.
Puis, en fait, là, ce qui me fait douter sur ce que je disais tantôt par rapport à justement se rendre jusqu'au bout, c'est justement, c'était tellement bizarre dans l'Est cette année. En fait, ça va être un peu ça l'année dernière aussi pour le dernier spot dans l'Est, que c'est les Capitals de Washington qui ont fini par acquérir. C'est comme si personne ne voulait se rendre. Puis cette année, je sais pas si on peut le voir positivement et dire qu'il y a trop d'équipes justement qui sont dans la course, mais pour le septième, il y a peut-être 7 ou 8 équipes qui sont dans le coup pour les deux wildcards. Fait que pour les Canadiens, ça va être extrêmement difficile. Je pense pas qu'ils sont en moins bonne position que les Red Wings ou que les Sénateurs, mais comme je disais, faut miser sur l'effondrement des Bruins, sur que les Rangers se replacent pas, sur que justement les Sénateurs se replacent pas, etc. Je pense que tu as absolument raison quand tu parles de joueurs comme Suzuki qui a une excellente saison, comme Cole Caulfield qui est encore qui est en position de marquer 40 buts pour la première fois de sa carrière, mais pour moi Kirby Dach c'est toujours pas très convaincant malgré qu'il a mis quelques points au tableau récemment. Alex Newhook a pas une bonne saison.
Je peux ajouter quelque chose. Ils ont gagné des matchs sans Laine puis Savard.
Je comprends.
T'sais, on parle de la profondeur. Ils ont gagné des matchs sans des joueurs importants là.
Je comprends ce que tu dis, mais moi on se connaît pas beaucoup toi et moi. Moi je suis un éternel sceptique. Fait que je déroge, je suis comme Ken View, de mon point de vue ici. Mais je dis pas que ça se peut pas. T'sais, pour moi, j'ai pas l'intime certitude que le Canadien sera pas justement en série ou dans le mix. Mais je pense que c'est une très haute côte à remonter. Je pense que réalistement, c'est déjà un accomplissement d'être dans le coup à ce point-ci de la saison. Juste pour oublier, le Canadien présentement est à 3 points des séries et est à 4 points du dernier rang dans l'Est. Ça peut changer très vite, là. T'sais, c'est des adversaires difficile, c'est un voyage la semaine prochaine, c'est les Stars de Dallas 2 fois dans la même semaine. Les Capitals ce soir vendredi, un équipe qui leur a donné beaucoup de difficultés cette semaine. Fait que disons qu'ils en perdent 3 à 4, mais tout à coup, là, hop, OK, ils sont rendus 12e, on est encore dans le mix. Je pense que ça évolue, ça peut évoluer très, très vite, puis sans dire que c'est infaisable. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions favorables à réunir.
C'est quoi tu ferais avec Jake Evans?
C'est tough. J'avais trop dur Jake Evans pour en discuter hier dans le balado entre la presse et une radio concurrente de BPM.
Oui.
Je pense qu'il peut apporter beaucoup de bonnes choses aux Canadiens. aujourd'hui et dans le futur. Je pense que Jake Evans, présentement, est, il vogue sur une vague qui est irrésistible. T'sais, je pense que 50% de réussite de ses tirs au but dans le dernier mois. Puis pour la saison, il est à presque 30%. C'est un joueur qui tire pas beaucoup au filet. Jake 10% d'efficacité, il y aurait 3 ou 4 buts cette saison. Ça n'en fait pas un mauvais joueur, mais je pense que c'est un joueur et en même temps que lui, Heinemann et Armia, c'est un trio qui va bien, mais c'est un trio qui va trop bien, si on veut. Il y a une correction qui devrait s'apporter. Puis je pense que Jake Evans, s'il est moindrement gourmand, ce qui a complètement le droit d'être, je pense que le Canadien sera hésitant à s'engager à long terme avec un joueur qui va avoir 29 ans l'été prochain et qui est plus un joueur de 25 points en carrière que probablement les 40 qu'il pourrait amasser cette saison. Cela dit, je vois pas de successeur direct à court terme dans l'organisation. Et en plus que cet été, on imagine que Christian Dvorak va quitter l'organisation, ben ça prend un troisième centre. Est-ce que ce sera Alex Newhook qui va être muté au centre l'année prochaine pour laisser une place à Demidov sur le deuxième trio? Est-ce qu'on va laisser le marché des joueurs autonomes? Mais je pense que ce qui est certain, c'est que les Canadiens ont besoin de Jake Evans. Mais je serais quand même assez surpris que le Canadien s'engage avec Jake Evans pour un 6 ans ou un 7 ans comme Evans pourrait le désirer.
Non, ça, on oublie ça. Mais je pense que il y a quelque chose qui vient de faire très mal aux Canadiens. Il y a 43 minutes de ça. As-tu vu le contrat que les sénateurs d'Ottawa y ont donné à Ridley Gregg?
Oui, j'ai vu ça, 3,25 pour 4 ans.
Exactement ça. OK, je veux que tu penses à ça un petit instant, OK? Ridley Gregg, joueur de 22 ans, joueur de centre pour les sénateurs d'Ottawa. Lui, là, cette année, à date, sa production à lui... Lui, en passant, qui, Ridley Gregg, sa production à date est de 6 buts, 6 passes, 12 points. L'année avant ça, il y a eu 26 points en 72 matchs. Cette saison, il s'aligne vers une saison inférieure à 30 points. OK? Inférieure à 30 points. Oui, c'est un choix de première ronde. Oui, 28e overall, je comprends. Jake Evans, il a double sa production. Il a 10 buts, 13 passes, 23 points. Puis Jake Evans va être agent libre sans restriction à la fin de l'année. Si Ridley Gregg signe 4 ans, 3,25, avec une production la moitié de Jake Evans, Jake Evans va aller chercher combien?
Ben, c'est drôle parce que 4 fois 3,25, c'est un contrat que je pense que le Canadien pourrait signer avec Jake Evans,
ah
qui
ouais?
a beaucoup de sens.
Tu penses que Jake Evans va le signer?
Je pense pas. Comment je dirais ça? Je pense que c'est un contrat qui aurait du sens pour le Canadien. Je pense qu'Evans demanderait davantage, surtout si cette saison il marque proche de 20 buts puis il fait une quarantaine de points. Je pense qu'il pourrait aller chercher 4 millions et plus ailleurs. Mais Jake Evans, une des raisons de son succès cette saison, c'est qu'il est, pour utiliser les mots de Martin Saint-Louis, dans la bonne chaise. Il joue sur le quatrième trio. Il joue pas contre les meilleurs joueurs adverses. Il joue avec des ailiers qui ont de l'allure pour une des premières fois de sa carrière, qui sont pas Jesse Ylönen ou, malgré tout le respect que j'ai pour lui, Michael Pezzetta. Et quand je parlais des conditions favorables, ben Jake Evans en profite, puis c'est tout à son honneur. Maintenant, à l'âge où il est rendu, est-ce que c'est le joueur de 40 points de cette saison qui est sur l'espèce de peut-être sur une balloune, ou plus un joueur de 25 points? Ben Ridley Gregg, pour cette saison, ces chiffres qui sont 12 points en 37 matchs, ça ressemble drôlement à la production habituelle de Jake Evans. Je vous rappelle que Ken Hughes, il y a 2 jours, savait par cœur que Jake Evans avait marqué juste 2 buts en 54 matchs en 2022-2023.
Ouais.
C'est une négociation. Le Canadien va essayer de tirer un bon deal de ça. Et je sais pas à quel point le contrat de Gray, c'est une mauvaise nouvelle, parce que, tu sais, comme tu l'as dit toi-même, c'est un choix de premier tour. Il y a toujours une surprise pour les choix de premier tour. Il y a 22 ans, Jake Evans, je l'ai répété, il va avoir 28 ans. Il y a plus de grit que Jake Evans aussi. Tu sais, on se souvient de l'année passée quand il y avait eu la rixe avec Morgan Riley à Toronto, quand il avait marqué dans le filet désert. Tu sais, Ridley Gregg, il aime ça quand ça brasse. C'est pas qu'Evans n'est pas capable de tenir son bout, mais c'est moins son style. Fait je ne sais pas à quel point.
Si je ne me trompe pas, Simon, excuse-moi, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a donné la mise en échec à Kirby Doc en match pré-saison.
Tout à fait.
Hein?
C'est un, tu sais, il est dur,
Ouais,
Ridley
ouais,
Rick,
ouais,
il est
ouais.
mean, là. C'est pas Jake Evans. C'est pas, tu sais, je suis pas sûr que dans les comparatifs de l'agent de Jake Evans, Ridley Rick va nécessairement être là. Justement, c'est mon collègue Mathias Brunet écrivait hier matin là-dessus. Et on va plus regarder, peut-être, je sais, j'ai plus en tête exactement la liste des joueurs que dont lui parlait. Mais tu sais, peut-être un Miles Wood ou un Drew Kopp, etc. Ou peut-être hier, je parlais avec Antoine Roussel, il parlait de Brandon Tanev. C'est des joueurs de profondeur de carrière,
Oui.
plus qu'un jeune joueur comme Ridley Greig.
On va finir avec ça, puis bien intéressant. J'ai bien aimé, j'espère que tu as aimé aussi. J'ai une autre question pour toi, ça va être la dernière pour la journée. Penses-tu que Jakob Debbèche pourrait continuer de tellement bien jouer qu'à un moment donné, d'ici la fin de la saison, on va peut-être parler d'un, tu sais, un controverse?
De controverse comme quoi il pourrait être le numéro un?
Oui, exactement ça. Penses-tu que il pourra continuer à bien jouer pour que vers la fin de la saison, là, la fin mars, le début avril, on commence déjà à dire, est-ce que c'est pas lui le numéro un? Est-ce que tu y crois?
C'est embêtant parce que j'avais pas pensé à ça,
Je
mais
sais que tu y crois pas avec
d'abord
Primo, là. Je sais que
la
tu squats pas
controverse.
avec Primo.
Je pense pas que c'est fini, Primo. Moi, je pense que Primo est justement. En tout cas, il n'a pas été une victime, là, mais
Non.
je veux dire, il a été placé dans une situation pas facile cette saison. Puis l'équipe, je pense, a établi que mentalement, il n'était pas à la bonne place, puis il voulait l'envoyer dans la Ligue américaine. Fait que je ne suis pas que Kaden Primo revienne avec le Canadien en quelque part d'ici la fin de la saison. Dobesh. Écoutez, il y a deux matchs de jouer dans la Ligue nationale, puis c'est drôle parce que ce qu'on dit de Dobesh présentement, on disait exactement la même chose de Primo en 2019-2020, quand il a joué ses premiers matchs, comment il était calme, comment il était en contrôle. Primo qui avait une super carrière universitaire, qui avait eu qui avait eu des succès dans la Ligue américaine. Donc, moi, je m'emporte pas à propos de Dobesh, malgré que j'ai vu la même chose que tout le monde. C'est très, je veux dire, c'est très enthousiasmant. Il a été tellement solide contre l'Avalanche, puis contre les Panthers. Puis là, on va le voir encore ce soir contre les Capitals. C'est intéressant comme question parce que si le Canadien est plus du tout dans le coup d'ici la fin de la saison, mais il y aurait avantage de faire jouer Debèche pour justement lui donner de l'expérience, voir où ce qu'il en est. Mais le Canadien a un gardien numéro un qui est Samuel Montembeau. Ils l'ont identifié comme tel en lui donnant son contrat l'an dernier. Donc, faut qu'il en prenne soin aussi. Tu sais, faut pas y envoyer un message ambigu de dire, on t'a fait garder 31 fois les filets la première moitié de la saison. On va donner le filet à Debèche en fin de l'année juste pour y en donner. Fait qu'il y a vraiment un enjeu de gestion là qui est intéressant. Je pense que oui, on pourrait y en donner plus à Dobesh, mais tu sais, une controverse de gardien à Montréal, c'est toujours tellement proche, puis faut pas oublier que Jacob Fowler pourrait signer à la fin de la saison aussi. Hein.
Ouais,
Fait qu'on n'a
ouais.
pas fini d'en parler. Fait que la controverse, il va toujours en avoir. Je vais être très surpris de voir Dobesh dans cette conversation-là à la fin de la saison.
C'est moi, Olivier. Je t'ai appelé un matin pour demander si tu peux venir, puis je sais que tu as une journée bien occupée. Tu t'en vas à la pratique des Stars de Dallas qui pratique aujourd'hui à midi. J'apprécie ton temps. Merci beaucoup, mon chum. On se parle bientôt.
Merci à toi.
Là,
Salut, bonne
voilà.
journée.
C'est moi, Olivier Larange du journal La Presse. On va aller à la pause. On va aller à la pause. Et au retour, nos meilleurs moments de la semaine, ça s'en vient.